J'invite les trois orateurs à venir. Je les remercie beaucoup. Merci beaucoup Nancy, Olivier et Christelle qui nous ont présenté des aspects très pertinents des réalités politiques et juridiques de nos trois pays, qui nous ont donné des clés de vocabulaire et de concepts quelquefois bien flous derrière un même mot. Merci aussi pour toutes les articulations repérées avec notre foi et nos convictions bibliques et l'exhortation au courage et à la foi et à la vraie liberté. Il y a quelques questions qui ont été rédigées. Mathieu est prêt à refaire le tour s'il y a une ou deux questions de dernière minute. Mais je vous laisse la parole avec les questions que vous avez déjà reçues.
Alors, merci pour ces questions. Qu'est-ce que le prosélytisme et quel rapport avec la loi en France ? Alors, c'est une bonne question. En France, nous n'avons pas de loi contre le prosélytisme. Et c'est vrai que souvent c'est un sujet puisqu'on peut nous accuser de prosélytisme. Il n'y a pas de conception, de définition juridique du prosélytisme en France. Par contre, effectivement, il y a à travers différents textes la protection des personnes contre ce qu'on pourrait appeler le prosélytisme abusif. D'ailleurs, comme je l'ai évoqué dans mon intervention, l'article 9 de la Cour européenne des droits de l'homme, interprété par la Cour, a ajouté donc le droit à convaincre et à tenter de convaincre son prochain. Et donc ça, c'est voilà, le prosélytisme, c'est le fait d'essayer de convaincre son prochain d'adhérer à son idée. Et donc ce droit est reconnu. Par contre, ce qui est évidemment la limite, c'est l'abus de droit et c'est le prosélytisme qu'on appelle abusif, qui serait celui qui contraindrait la personne, la forcerait soit par des violences, par des pressions, par des chantages, par toutes sortes de manœuvres à adhérer. Et donc ça serait vraiment la contrainte contre la liberté. Maintenant, peut-être une remarque. C'est vrai que ce terme de prosélytisme, qui n'est pas dans une loi française, on le retrouve néanmoins dans des documents de valeur législative, enfin valeur légale bien moindre, des chartes, et notamment dans les chartes de la laïcité, où il est souvent utilisé à tort, puisque les usagers des services publics ou les élèves ont une interdiction de prosélytisme. Et sans que ça soit défini. Or, c'est ce prosélytisme abusif qui est interdit. Et en France, c'est vrai que peut-être la référence qu'on pourrait avoir sur le sujet, c'est cette loi de 2004 sur le voile, l'interdiction du voile à l'école, puisqu'en fait, on a considéré que le port du voile en soi était un acte, le port d'un vêtement en fait était un acte ou alors le port de signes ostentatoires était un acte de prosélytisme. Mais il n'y a pas de notion, il n'y a pas de loi interdisant le prosélytisme, interdisant le fait de vouloir convaincre autrui du bien fondé. D'ailleurs, les publicitaires font du prosélytisme, les politiciens font du prosélytisme pendant leur campagne électorale. Voilà, c'est cette notion aussi de liberté, d'expression et de pouvoir changer d'avis. Je crois que Christelle avait une remarque aussi.
Juste peut-être un mot d'ajout avec une perspective plus internationale. Plusieurs instances internationales, soit la Cour européenne des droits de l'homme ou l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a fait beaucoup de travail de démocratisation en Europe centrale et en Europe de l'Est, s'est penchée sur la question du prosélytisme avec des cas qui remontaient souvent de législation nationale pour l'OSCE. Où des gouvernements essayaient d'interdire le prosélytisme. Et c'était, dans les faits, très souvent à l'encontre de groupes de témoins de Jéhovah ou de chrétiens évangéliques. L'OSCE a réagi en établissant ce qu'on appelle des lignes directrices, c'est-à-dire des directives sur comment est-ce qu'il faut rédiger les lois. Et à repréciser en fait ce que Nancy a dit, c'est-à-dire que le terme de prosélytisme ne possède pas de définition. Donc c'est juste un terme qui est utilisé dans un contexte négatif pour un peu vous dire voilà, vous insistez trop, non merci. C'est simplement ça que ça veut dire. Il n'y a pas de définition, en tout cas pas à ma connaissance, de ce qu'est le prosélytisme. Il est simplement perçu comme une parole qui cherche à convaincre autrui d'une certaine cause. Mais exactement comme Nancy l'a dit, voilà, si je sais pas, Danone essaie de vous convaincre d'acheter ses produits, techniquement c'est du prosélytisme. Et si un politicien essaie de vous convaincre de voter pour lui, c'est du prosélytisme tout autant. La seule barrière qu'il y a, c'est celle de l'abus de faiblesse, de l'abus de son propre droit, et voilà, d'utiliser des méthodes qui, elles, ne seraient pas acceptables. Je voudrais juste ajouter que la liberté religieuse implique et est totalement liée à la liberté de communication, c'est-à-dire d'échanger des informations, que ce soit dans le but de convaincre ou pas d'ailleurs, voilà, ça peut être une gazette, mais elle implique aussi le droit d'être laissé tranquille. Donc, si dans le cadre d'un certain prosélytisme, une personne vous fait comprendre très clairement qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle ne veut pas vous entendre parler, il est de votre responsabilité de la laisser tranquille. Voilà.
Alors, j'ai une question concernant le fonctionnement des religions minoritaires dans les cantons. Comment est-ce que ça se passe, religions minoritaires? On pense bien sûr aux minorités évangéliques ou alors aux juifs ou aux confessions musulmanes. Le système est le suivant. Donc, si vous voulez, il y a un socle de garanties qui sont des garanties fédérales pour tout le monde, les religions minoritaires ou les religions majoritaires. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de culte, c'est toutes ces libertés qui existent partout ailleurs. Et certaines confessions sont reconnues d'utilité publique pour leur travail en faveur de la société. Ils peuvent obtenir, si vous voulez, des prérogatives, des avantages sur les autres, comme par exemple une présence, une aumônerie dans les prisons ou les universités. Ou alors, vous avez dans certains cantons l'État qui finance directement certains ministres des églises reconnues officiellement. Donc, en gros, les mêmes libertés pour tout le monde et certains avantages pour les églises majoritaires ou les églises reconnues d'utilité publique. Maintenant, la tendance au niveau des cantons, c'est de prévoir une procédure pour essayer de reconnaître d'autres églises d'utilité publique, parce que le problème, c'est que l'église réformée s'effondre et que d'autres confessions montent. Ben, il y a les évangéliques, mais il y a aussi les musulmans qui demandent également à bénéficier de ce même statut. Et actuellement, dans le canton de Vaud, en tout cas, il y a des discussions là autour. Le canton de Neuchâtel aussi, je sais qu'il y a une révision législative qui est en chantier pour permettre d'élargir un petit peu le cercle des églises reconnues. J'ai encore une autre remarque concernant le préambule, l'invocation. Donc, j'ai parlé longtemps de l'épithète tout-puissant qui pouvait choquer certains, et on m'a fait remarquer qu'il y avait une majuscule après le point d'exclamation tout au début de l'invocation. C'est pas exclu que ce soit une faute typographique de ma part. J'invite celles et ceux qui sont perturbés par cette question à aller vérifier sur le site de la Confédération.
Merci beaucoup à nos amis. J'espère que les Belges, les Français et les Suisses s'y sont retrouvés ce soir. C'était un des défis que l'on s'était donné, de vraiment évoquer les trois pays. Droit ou pas droit, nos amis nous disent vraiment clairement qu'on a beaucoup de droits, nous rappellent en tant que frères et sœurs qu'on a même le devoir, que l'on peut dire et même convaincre, vouloir convaincre. Mais faisons-le avec respect et intelligence. Et nous avons pensé hier soir, à nous quatre, vous proposer de terminer en lisant un verset biblique. Je vous invite à vous lever et nous allons terminer ce temps en lisant un verset que nous avons choisi, 1 Pierre 3,15, et je vous invite à vous souvenir par cœur des 6 mots suivants qui sont « Mais faites-le avec douceur et crainte ». Je vous ai déjà donné la finale. Mais on va tout lire ensemble.
Reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêt à donner des explications.
Mais faites-le avec douceur et crainte.
Que la grâce et la paix du Seigneur nous aident à le vivre. Amen.
Amen.